Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon, Nicolas Sendé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Clément Daté, dont c'est le grand retour, on le salue. Premier temps d'une nouvelle série consacrée aux États-Unis à un mois et demi de l'élection présidentielle. Penchons-nous sur les grands enjeux qui traversent le pays. Demain, mardi, il sera question des tensions raciales. Mercredi, de la politique étrangère de Trump. Et puis enfin, jeudi, du bilan économique du 45e président des États-Unis. Mais avant cela, intéressons-nous à la campagne électorale, la polarisation de cette société américaine qui est telle qu'elle pourrait conduire au chaos. Dernière campagne avant le chaos, point d'interrogation, c'est le titre de notre émission ce matin.
Dans 78 jours, on va stopper la gauche radicale, on va remporter l'État du Wisconsin et on va gagner 4 ans de plus.
Donald Trump a eu une présence toxique pour ce pays pendant 4 ans, empoisonnant notre façon de nous parler, notre façon de nous traiter, empoisonnant les valeurs que cette nation a toujours chéries.
La seule façon dont on va perdre ces élections, c'est si ces élections sont truquées. Souvenez-vous de ça.
Moi, je veux aller me coucher le soir sans me dire que le pays va exploser en pleine nuit à cause d'un tweet qui secoue les marchés financiers ou parce qu'il aura dit quelque chose de raciste à la télévision. Je ne peux pas vivre 4 ans de plus comme cela.
Moi, je pense que Portland est devenu l'épicentre de la Seconde Guerre civile. Ce sont des communistes qui agitent leur drapeau rouge. Le président a dit que c'était des terroristes de l'intérieur dont nous sommes là pour sauver l'Amérique.
Alors que les conventions nationales des partis démocrates et républicains se sont achevées, la campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite et la désignation du prochain président des États-Unis s'annonce houleuse. Rarement une campagne américaine se sera déroulée dans un tel climat de tension, voire même de violence, avec d'un côté un camp progressiste pour qui il est désormais vital de faire perdre Donald Trump sans quoi l'Amérique y laisserait son âme, et de l'autre un camp conservateur replié sur lui-même, et pour qui ce dernier, Donald Trump, est le seul à même de défendre leurs valeurs. Mais entre les deux camps, le dialogue est rompu, à tel point que plusieurs observateurs craignent le retour d'une guerre civile. C'était par exemple le sens de la tribune de l'éditorialiste conservateur Daniel Henninger la semaine dernière dans le Wall Street Journal. En effet, Donald Trump, distancé dans les sondages par son rival, a bien compris l'intérêt qu'il avait à jouer la carte de la guerre culturelle et se placer comme le candidat de l'ordre et de la loi alors que son bilan économique s'est évaporé sous l'effet de la pandémie. Et il est poussé en ce sens par des partisans qui le soutiennent à la vie, à la mort, comme on l'a vu dans ce dramatique événement de Kenosha où se déroulaient des manifestations contre les violences policières au cours duquel un de ses jeunes partisans, Kyle Rittenhouse, militant pro-armes d'extrême droite, a été arrêté après une fusillade qui a fait plusieurs morts. Alors, quels sont les risques que la prochaine élection aboutisse à une situation de chaos? Une guerre civile est-elle réellement possible aux États-Unis? Et comment le pays en est arrivé là? Et puis, quelles sont les stratégies des démocrates et des républicains pour l'emporter? Sur quoi, où et comment se jouera cette élection? Pour évoquer toutes ces questions nombreuses, difficiles, on a invité d'abord Laurie Canton qui est avec nous ici à Paris en plateau. Bonjour Laurie Canton.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Et puis, avec nous, mais depuis Toulouse, Françoise Coste, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes historienne, professeure à l'université Toulouse, Jean Jaurès. Vous aviez écrit, vous, c'était il y a quelques années, Ronald Reagan chez Perrin. J'ai pas évoqué les titres de vos ouvrages, Laurie Canton. Je vais le faire tout de suite. D'abord, La fin du rêve américain, c'était chez Autrement en 2017. Et puis, un livre qui est en préparation, Le rêve américain, toujours à l'épreuve de Donald Trump. Ça sera aux éditions Vendémiaire. Je disais, dans mon introduction, je parlais de guerre civile. Laurie Canton, est-ce que c'est tout à fait exagéré, c'est une formule qui est faite pour vendre des journaux ou pour obliger des auditeurs à écouter des émissions, suivez mon regard, ou c'est pas complètement hors de propos?
Bah, ce qui est certain, c'est qu'on va pas avoir un nouveau Gettysburg avec des dizaines de milliers de soldats d'un côté et de l'autre. Donc c'est pas ce type de guerre civile. En revanche, ce qui est pas du tout exclu, parce qu'on a déjà eu des manifestations de ce genre-là, c'est une radicalisation armée et violente sur la base de ce que l'on voit actuellement. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas accepter le verdict des urnes d'un côté comme de l'autre et qui le contestent. vote dans la rue, ou même pas forcément dans la rue, parce que ce qu'on a vu, c'était des manifestations et des contre-manifestations, que ce soit à Kenosha ou à Portland, des démonstrations de force, des gens qui se tirent dessus, des deux côtés, à Portland et à Kenosha. Mais ce qu'on peut tout à fait imaginer, c'est un scénario plus en deux temps, avec un attentat type Oklahoma City. Des gens qui n'acceptent pas le... Alors, Oklahoma City en 95, c'était le gouvernement fédéral, donc était une cible. Là, c'est pas forcément seulement le gouvernement fédéral comme espèce de puissance maléfique, mais ce qui pourrait s'apparenter à la manipulation des urnes par un côté ou par l'autre.
Françoise Coste, ces dernières années, on a assisté, c'est vrai, à une montée en puissance de milices armées qui sont très majoritairement pro-Trump, avec en ligne de mire, évidemment, l'État fédéral. On les a vus soutenir, armes à la main, des commerçants qui refusaient le confinement. On les a vus pénétrer dans le Capitole du Michigan pour réclamer la réouverture du pays. Est-ce que ce sont des groupes marginaux ou est-ce que, en cas de défaite de Donald Trump, effectivement, il pourrait constituer une vraie menace sécuritaire sérieuse pour le pays, Françoise Coste?
Oui, alors ce n'est pas une armée organisée, hein, mais c'est effectivement un réservoir potentiel de violence de la part de supporters de Trump. Et le problème, c'est pas tant que ces gens existent, mais c'est qu'ils sont chauffés à blanc par le président. C'est-à-dire que le président Trump, au lieu de voir ces nuages arriver à l'horizon et de calmer la situation, on l'a entendu au début de l'émission, de plus en plus souvent, il indique qu'il pense qu'il y aura de la fraude électorale, qu'il ne peut pas perdre, qu'il ne quittera pas la Maison-Blanche s'il perd. Donc il prépare cette base à refuser le résultat des élections et à exprimer son refus de manière violente. Donc même si ce n'est pas une guerre civile, effectivement, comme au XIXe siècle vers lequel on va, on ne peut pas du tout exclure une crise institutionnelle très sérieuse avec, en fait... Nous, on a le regard fixé vers le 3 novembre, le soir de l'élection, mais ça pourrait être plutôt le début de la crise que la fin du suspense.
On va regarder justement quels sont les scénarios possibles. Laurie Kenton, d'abord, on peut peut-être rappeler que la guerre de sécession, elle s'était quand même déclenchée sur le refus de l'élection d'Abraham Lincoln, première chose. Et puis, j'évoquais les milices armées. Il y a les milices armées, mais il y a aussi des groupes qui sont pas forcément armés, mais qui constituent quand même un terreau sur lequel, précisément, il y a quelques inquiétudes à émettre. Je pense au groupe, notamment au mouvement conspirationniste QAnon, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est un mouvement qui voit en Donald Trump, au fond, le sauveur, le seul capable d'empêcher que les États-Unis ne tombent dans les panneaux de complots obscurs. Quand on regarde ce qu'est un peu ce groupe, du côté en tout cas du FBI, on juge que c'est un groupe terroriste, hein, ni plus ni moins. C'était une note du FBI qui remonte à mai 2019. C'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est pas seulement les armes, c'est tout ce terreau-là derrière d'extrême droite qui est en train de prendre de la force.
En fait, il y a toute une mouvance de gens qui ne croient plus les médias ou qui ne croient les médias traditionnels, qui ne croient plus les politiques. C'est aussi le succès de Donald Trump, c'est d'abord un succès sur le Parti républicain, un Parti républicain qui n'avait plus du tout, qui était complètement démonétisé, et Trump a réussi à faire un petit peu le coucou il a fait son nid dans le Parti républicain, parce que le Parti républicain, comme le Parti démocrate, comme le Congrès, comme les médias, font l'objet d'une défiance terrible de la part des Américains en général et des Républicains en particulier. Quand on parle de milices, en fait, dans les années 90, elles étaient déjà très présentes. Sous Obama, elles ont été ravivées. Donc c'est un problème de fond. Il y a effectivement un terreau et toutes ces choses-là sont ravivées et entretenues, galvanisées par Trump. Donc c'est pas du tout Trump qui les crée, mais lui crée un climat, effectivement, entretient un climat et bénéficie d'un climat. Il y a une relation symbiotique entre les deux. Et ces gens aiment Trump parce que Trump les aime. Ou en tout cas, dit qu'il les aime. Parce que Trump en a besoin. Donc, il les caresse dans le sens du poil. Et donc, ces gens-là disent, lui, il nous comprend. Lui, il est différent.
Sur QAnon, il n'a pas dit qu'il les aimait, mais il a dit, je sais qu'il m'aime bien et ça me fait plutôt plaisir. Donc, voilà, il joue effectivement sur
une ambiguïté.
Françoise Coste, justement sur la question du parti, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que malgré les outrances, précisément, le Parti républicain, vous êtes une spécialiste du Parti républicain aux États-Unis, eh bien, il soutient toujours Donald Trump. Il continue à faire bloc. Comment le comprendre, Françoise Coste?
En fait, on assiste peut-être à la fin d'un cycle dans l'histoire du parti, puisque enfin, l'ironie, c'est que le Parti républicain, vous parlez d'Abraham Lincoln, il est né au moment du début de la guerre de sécession, de la guerre civile au 19e, et là, il est en fait aussi pourri de l'intérieur qu'était le Parti démocrate, par exemple, à l'époque, ou le Parti Whig qui avait complètement disparu. C'est-à-dire que la grande question qui se pose pour les historiens, c'est est-ce que Donald Trump, c'est une anomalie dans l'histoire du parti, ou bien est-ce qu'en fait c'est un aboutissement logique des 40-50 dernières années dans l'histoire du parti? Et cette question, il va falloir un peu de recul pour y répondre, mais aujourd'hui, moi je serais plutôt tentée de dire que le parti était en fait déjà une coquille vide quand Trump l'a conquis en 2016, qu'un parti en bonne santé ne se serait pas donné comme ça à Donald Trump. Et ce qui confirme cette interprétation, c'est effectivement que depuis 4 ans, il n'y a eu aucun contrepoids venant du parti, en particulier au Congrès, en particulier au Sénat, où le Parti républicain est encore majoritaire. C'est-à-dire que les grands noms du parti, les personnes comme Ted Cruz, Marco Rubio, qui étaient opposés à Trump dans la primaire de 2016, sont complètement rentrés dans le rang. Il n'y a aucune opposition en interne. Et ça pose la question de, même si Trump perd en novembre, et même s'il s'en va pacifiquement de la Maison-Blanche, c'est de grands si, mais c'est quoi que veut dire le Parti républicain aujourd'hui? Que va être conservateur aux États-Unis aujourd'hui? Peut-être rien du tout, parce qu'il n'y a plus de conservatisme, il n'y a plus que du Trumpisme aux États-Unis aujourd'hui.
Alors, Laurie Kenton, si on regarde un peu les scénarios possibles du chaos, j'ai regardé pour préparer l'émission un certain nombre de scénarios qui sont aujourd'hui échafaudés par des laboratoires de pensée du côté des États-Unis. Je vais vous en donner quelques-uns, il y en a probablement d'autres. D'abord, parmi les scénarios possibles, celui où le résultat est très serré, ce qui est tout à fait probable, et où tout se joue dans une poignée d'états clés, et où les recours se multiplient indéfiniment, et on met au fond des semaines à savoir qui est effectivement le président des États-Unis, et on plonge dans l'incertitude potentiellement dévastatrice. Il y a un scénario où Biden l'emporte largement, et Trump le conteste précisément, déclenche des enquêtes fédérales en cascade et refuse sa défaite. Il y a le scénario où Biden remporte le vote populaire, mais où Trump, lui, remporte le vote du collège électoral, provoquant là la colère du camp démocrate, avec on ne sait pas forcément quoi à la clé. Le résultat aussi dans un swing state, dans un état clé, qui serait d'abord favorable à Trump, et puis ensuite qui basculerait, là aussi on en a beaucoup parlé, à cause du comptage des votes par correspondance de l'autre côté. Et là, Trump, évidemment, criant au scandale et à la fraude, il le fait déjà, il prépare déjà d'une certaine manière ce scénario depuis longtemps. Quel scénario paraît le plus possible? Et surtout, la vraie question, c'est est-ce qu'il vous semble que les institutions américaines aujourd'hui sont suffisamment fortes pour résister à de telles options?
Alors, à mon avis, ce qui se profile, c'est une combinaison de ce que vous avez évoqué. De toute façon, toutes les élections, même en dehors du contexte Covid et donc du surcroît de vote par correspondance, se jouent dans une poignée d'états clés. Ça, c'est pas nouveau. C'est un problème de représentativité démocratique qui est ancien. Donc cette année n'y dérogera pas. L'élection va se jouer dans une demi-douzaine d'états, peut-être un peu plus. On va voir, il y a des états qui se resserrent. Donc ça, c'est déjà une donnée. La deuxième donnée, on le sait, c'est que le temps de décompte va être différent de ceux que l'on connaît d'habitude. On l'a déjà vu, hein, en 2004, il a fallu un certain temps pour que ça se décante, parce que les derniers États ont mis un certain temps à compter, c'était très serré. On ne parle même pas de 2000 et de la Floride, où une poignée d'électeurs a décidé de l'élection. Donc ça, ce sont des précédents que l'on connaît, que l'on peut redouter, que l'on peut essayer d'anticiper. Ce que l'on sait, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens, et essentiellement des démocrates, ça on le mesure enquête après enquête, qui vont voter par correspondance. Et forcément, au moins dans certains États, le compte va intervenir après. Il va être assez important pour faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. C'est pas marginal. Ça l'a été avant, donc c'est vrai que généralement on annonçait le résultat avant d'avoir ces résultats-là, parce que de toute façon ça n'allait pas faire basculer l'élection. Cette année c'est différent, et donc on peut très bien imaginer que à défaut d'un raz-de-marée de Biden, notamment dans les premiers États, donc les plus à l'Est, qui sont de toute façon soit ceux du Nord déjà très démocrates, soit plus au Sud, Caroline du Sud, très républicain, il y a la Caroline du Nord qui est assez tangente, et la fameuse Floride. Le problème de la Floride, c'est qu'il y a pas mal de votes par correspondance, et donc on risque de ne pas savoir tout de suite. Donc le scénario d'une décantation rapide, avec un raz-de-marée Biden, est assez peu probable. Ce serait le plus commode pour nous, parce que ça éviterait toute ambiguïté. Mais on se dirige plutôt vers des résultats plutôt favorables à Trump au départ. Donc, cocorico, il va déclarer sa victoire, malgré tous les appels à la prudence à destination des médias américains pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas, qu'ils se calment un petit peu sur le sensationnalisme. Et finalement, ce qu'on appelle le blue shift, c'est-à-dire un retournement au profit des démocrates, ça on l'a vu en 2018. En 2018, on nous annonçait une vague bleue. Le soir de l'élection, les démocrates étaient un peu penauds parce qu'ils disaient « Ah, il n'y a pas eu de vague bleue ». Et puis finalement, jour après jour, on l'a vu, le scénario se décantait notamment dans les élections de Californie. Ça, c'est toujours très long en Californie. Ça, on a l'habitude. Et on a vu que finalement on n'avait pas forcément une vague bleue, mais que on avait un scénario qui était beaucoup plus favorable aux démocrates 15 jours après l'élection que le soir de l'élection. Donc on a un certain nombre d'éléments et de certitudes qui font que le scénario d'une décantation lente et d'un retournement au profit des démocrates semble le plus probable.
Françoise Coste, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que ce serait le scénario le plus probable? Et puis, pour aller un peu plus en avant, la question de la Floride, c'est vrai qu'on s'y intéresse souvent, c'est un peu le baromètre, c'est le swing state par excellence, et pour cause, il est d'autant plus intéressant qu'en général, on vote pour celui qui sera le vainqueur à la fin, Françoise Coste, alors que nous disent des sondages sur la Floride.
Je crois que cette année, ça va pas se jouer en Floride. Je crois que la Floride s'est perdue pour les démocrates. Ça fait un petit moment qu'ils ne l'ont pas gagné. Donc en fait, ça fait un petit moment que la Floride, elle est plus swing state, quoi. Cycle, elle est du côté des républicains. D'autant plus que cette année, Trump est un peu l'enfant du pays, puisque bon, bien sûr, on sait qu'il est New-Yorkais, mais officiellement, il a basculé sa résidence. En tant que lecteur, il est inscrit sur les listes électorales lui-même, personnellement, aujourd'hui en Floride, où il a sa grande, son club de golf floridien, Mar-a-Lago, ce qu'il appelle la Maison Blanche du Sud, où il passe beaucoup de temps, toutes ses vacances. Donc bon, il est aussi très présent physiquement, beaucoup de meetings en Floride. Donc je pense que ce ne sera pas, que la Floride, les démocrates peuvent faire, s'il compte sur la Floride, c'est vraiment perdu d'avance.
Et là, où est-ce que ça pourrait se jouer?
Les swing states, ce sera sans doute vers le Midwest cette année, c'est-à-dire en particulier dans les trois États que Hillary Clinton avait perdu en 2016, alors qu'elle était persuadée de les avoir ou n'avait pas fait campagne. Les démocrates se battent encore la coulpe à ce propos. Donc il y a la Pennsylvanie à l'est, et puis autour des Grands Lacs, le Wisconsin et le Michigan, voilà, qui étaient eux pour le coup, qui n'étaient pas des swing states jusqu'à présent, qui étaient vraiment bleus démocrates et qui à la surprise de tout le monde en 2016, on basculait de peu, mais on basculait vers Trump, et c'est là, à quelques milliers de voix près, que s'est fait l'élection de 2016. Ouais. Donc là, on voit bien que toute l'attention des démocrates allait sur ce type d'État-là.
Oui, justement, Laurie Canton, parce qu'effectivement, pour avoir une idée du verdict des urnes, il faut se pencher sur un groupe qui est très important aux États-Unis, c'est les indécis. Et en 2016, précisément, les indécis s'étaient majoritairement tournés vers Trump. Cette année, que sait-on de ce groupe-là, les indécis? Que vont-ils faire?
Il faut faire un petit peu attention à la terminologie. On a trois groupes. On a les indécis, ceux qui, quelle que soit leur appartenance partisane déclarée, disent ne pas savoir pour qui voter. Les indépendants, qui sont souvent les indécis, mais qui sont aussi souvent des démocrates qui ne veulent pas dire qu'ils sont démocrates, et des républicains qui s'en cachent un petit peu, des partisans honteux. Et il y a ceux qui... Alors, j'ai oublié mon troisième point. Peu importe. Donc, là, les indécis, on en a finalement assez peu par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire que... c'est les double haters, ceux qui n'aiment pas les deux candidats. Et ça, c'est très important, parce qu'en 2016, ceux qui n'aimaient ni Clinton ni Trump penchaient quand même plus pour Trump. Cette année, les double haters qui n'aiment ni Biden ni Trump penchent majoritairement et assez nettement pour Biden. Donc ça, c'est un point qui est important, parce que ce ne sont pas des fans d'un côté ou de l'autre. Ceux-là, les fans, on sait pour qui ils vont voter.
C'est des électeurs par défaut, d'une certaine
façon. C'est des électeurs par défaut qui vont quand même aller voter, ils pourraient très bien aller à la pêche. Les vrais indécis, il y en a moins. Ce que nous disent les sondages, c'est qu'il y en a moins, et ce qu'il faut rajouter dans les indécis, c'est ceux qui disent pour l'instant qu'ils vont voter pour un autre parti, les libertariens ou les écologistes. Et ça, ça a coûté beaucoup à Hillary Clinton en 2016. Il y en a nettement moins que la dernière fois. Et ce qu'on voit élection après élection, c'est qu'on a des indécis qui se décident la dernière semaine, voire le dernier jour. Là, il semble qu'il y en ait moins. Ces électeurs coûtent extrêmement cher parce qu'il faut les persuader. Et on ne peut pas les voir jusque au dernier moment. Donc les sondages nous donnent toujours une photographie à l'instant T, mais il faut vraiment s'approcher de la dernière semaine pour avoir une idée un peu plus précise, moyennant la sacro-sainte marge d'erreur, de ce que serait le résultat des urnes.
Alors, il y a les indécis, je vais vous entendre peut-être Françoise Cosse sur ce groupe-là, et puis il y a aussi les nouveaux électeurs. Là, ils vont être importants. Il y a aujourd'hui 156 millions d'électeurs qui pourraient prendre part au scrutin du 3 novembre prochain. C'est donc quasiment 20 millions de plus, pas tout à fait, mais presque, il y a 4 ans. Alors, on se dit, a priori, Françoise Cosse, mais justement, vous allez nous corriger, que ce sont plutôt des jeunes qui viennent de s'inscrire sur les listes, éventuellement des immigrés qui ont obtenu la nationalité, et donc plutôt des électeurs de Biden. Ce groupe-là qui est quand même important, quasiment 20 millions. Est-ce que c'est le cas ou c'est plus compliqué, Françoise Cosse?
Alors déjà, le fait que, pour revenir sur les indécis.
Je vous en prie, allez, les indécis d'abord.
Après 4 ans de Trump, le fait qu'il y ait des gens qui hésitent encore, ça nous montre bien que nous, on est dans une approche hyper rationnelle de cette élection. On sait pour qui on voterait, on sait ce qui se passe, mais que la majorité des Américains, c'est pas des political nerds comme nous. La majorité des Américains, on a du mal à le croire, mais ils ne sont pas passionnés nécessairement par la politique et par cette élection. Et sont des low information voters, c'est-à-dire des électeurs qui ne prêtent pas attention aux actualités et qui ne savent pas vraiment ce qui se passe. Je dis ça parce que je crois que c'est hier qu'est sorti un article dans le The Economist où justement le journaliste va voir le swing state de l'Ohio, qui est aussi un état du Midwest qui va être crucial. Et il demande à des fans de Trump, des ouvriers blancs, pour qui ils vont voter. Et eux disent Trump sans hésiter. Bon, le journaliste demande pourquoi et les ouvriers lui disent parce qu'il a fait beaucoup pour diminuer le déficit budgétaire et grâce à lui on a l'assurance santé. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui confondent Obama et Trump sur la politique de santé et qui croient qu'il y a moins de dettes aujourd'hui aux États-Unis qu'il y a 4 ans alors que c'est tout à fait le contraire à cause d'une politique fiscale en particulier de la part de Trump assez tragique sur le plan budgétaire. Donc les gens ne sont pas nécessairement informés et effectivement, ils vont aller glaner quelques informations d'ici le début novembre et se décideront au dernier moment et sans avoir toujours
les informations nécessaires pour voter.
Les bonnes données pour faire un bon choix.
Sur les nouveaux votants.
Sur les nouveaux votants, c'est clair que logiquement, mais là aussi dans un monde rationnel, ces millions de nouveaux électeurs devrait voter Biden. Mais là, c'est la même réponse. On n'est pas dans un bon moment rationnel aux États-Unis. Et cet espoir dans les nouveaux électeurs, c'était exactement à peu près la stratégie de Hillary Clinton en 2016. Elle et tout le Parti démocrate derrière elle ont une vision démographique de l'élection. C'est-à-dire les groupes démographiques dans la population qui sont dynamiques et qui augmentent sont les jeunes, les femmes, les hispaniques, les urbains. Donc, c'est-à-dire des gens qui devraient voter pour le Parti démocrate. Et le Parti démocrate en 2016 s'est beaucoup appuyé sur cette certitude. Et puis finalement, patatras, parce que ces gens-là ne sont pas allés voter. Ou bien ont voté plus pour Trump qu'on ne l'imaginait, par exemple les hispaniques. Malgré toute la campagne anti-immigration de Trump en 2016 avec le mur de la frontière du Mexique, en réalité, chez les hispaniques, il a fait des pas trop mauvais score, sans doute parce que beaucoup d'hispaniques conservateurs préféraient voter pour lui que pour une femme. Il faut pas perdre l'aspect genre, la problématique genre de la présidentielle de 2016. Il faut pas le perdre d'esprit. Bon, bref. Donc, tout ça va se jouer à la participation. Et là, le boulot du Parti démocrate entre aujourd'hui et novembre, c'est d'aller chercher ces électeurs pour les faire venir aux urnes, ce qui, dans le contexte de pandémie, est vraiment très difficile.
Alors, Laurie Kenton, regardons sur quel thème se joue là la campagne. Pardon, j'arrive avec des choses un peu rationnelles, mais il y a une récente étude, un récent sondage de Pew Research qui classait en tête des préoccupations la question de l'économie. C'est pas franchement une surprise, c'est généralement le thème le plus important pour les électeurs américains. Alors, avant la crise du Covid, la situation économique était excellente, très bonne, donc Trump précisément pensait... Vous hochez de la tête, vous préciserez. En tout cas, Trump prévoyait vraiment d'en faire son principal atout dans sa réélection. Ça paraissait assez clair. Sauf que désormais, avec la crise sanitaire, on voit des indicateurs qui sont en rouge, avec un chômage qui est passé au-dessus de la barre des 10%, alors qu'il était un peu en dessous de 4% juste avant la crise du Covid. Cette mauvaise santé économique, jusqu'où pourrait-elle être défavorable à Donald Trump, Laurie Kenton?
Alors, on en revient à ce que disait très justement Françoise Coste sur les électeurs peu informés. C'est-à-dire que les bons chiffres de l'économie, ils étaient bons en apparence. C'est-à-dire qu'il y a un trompe-l'œil qui est assez classique avec les chiffres du chômage, quel que soit le pays. Hein. Quand vous avez un chiffre flatteur du chômage, c'est peut-être parce que vous n'avez pas compté tous les gens qui n'ont pas d'emploi, parce qu'eux, ils sont sortis des statistiques. D'un coup, ça marche mieux.
Les a sortis sous le mandat de Trump, vous voulez dire?
Non, c'est-à-dire...
Si on avait pris les mêmes indicateurs qu'à l'époque du mandat d'Obama, on aurait eu un chômage qui était supérieur à 4%.
Non, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui est assez indépendant finalement. On a des restructurations des chiffres, c'est-à-dire qu'on a on a deux façons de compter. La première façon de compter, c'est de compter la labor force, c'est-à-dire la population active. Et donc il y a des gens qui ne sont notamment pas mal d'hommes blancs entre 16 et 45 ans qui ne sont plus considérés comme in the labor force. Et donc ils sont pas chômeurs, puisqu'ils sont pas dans la population active. Donc il y a cette espèce
de... Oui, c'est exactement comme chez nous, sauf que voilà. On a toujours, je veux dire, toutes les administrations font un peu
la même chose. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était international.
Voilà. Donc si on regarde les choses, il y a quand même, malgré ce comptage un peu biaisé...
Ça concerne des dizaines de millions de personnes qui vivotent d'aide, qui habitent dans des grands camps de mobilhomes ou de camping-cars. Enfin,
je remets évidemment pas ça en cause, et vous avez absolument raison de pointer cela, mais la dynamique semblait plutôt bonne, la croissance était plutôt bonne, la dynamique du chômage, restons sur cette idée, pas le niveau même, était plutôt favorable à Trump.
Mais malgré ça, il y avait de très fortes inégalités salariales. Et par exemple, dans les gens qui ont un travail, il y avait des cas de mères célibataires qui sont obligées de bosser 16 heures par jour, d'avoir deux emplois. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'était un petit peu un trompe-l'œil. Quand vous avez, il y a des états de l'Ouest, je sais plus si c'est le Wyoming ou l'Ohio, on était à 2% de chômage. Je veux dire, c'est du jamais vu. Donc ça, de ce point de vue-là, si on regarde juste ça, oui, ça allait très bien. Si on regardait un certain nombre d'indicateurs boursiers, ça allait très bien. Mais ça concerne pas les fameuses classe moyenne ou classe moyenne inférieure, dont les deux candidats se targuent d'être les ardents défenseurs. Donc pour cela, les inégalités salariales étaient quand même plutôt criantes. Donc des chiffres en trompe-l'œil déjà avant le coronavirus. Mais comme on le sait maintenant, les gens qui sont prêts à voter Trump sont prêts à croire que les chiffres qu'on donne, c'est la faute des démocrates, c'est la faute des médias, que finalement Trump est le candidat le plus à même de sauver l'économie. Et ça, les sondages nous le donnent. Dans tous les baromètres, on nous dit que Biden est vu comme plus à même de restaurer la paix sociale, de s'occuper de la santé, etc. Mais sur l'économie, toujours aujourd'hui, on a une majorité de sondés qui nous disent... qu'il voit Trump comme plus à même d'être bon en économie. Même des sondages qui mettent Biden en tête face à Trump. Et c'est la majorité des sondages. Donc il reste cette sorte de point d'interrogation sur l'économie. Le pari de Trump, c'est que le coronavirus allait disparaître rapidement, qu'on allait rouvrir l'économie. L'élasticité légendaire de l'économie américaine aurait fait que ça allait remonter très vite. Aux États-Unis, ça s'effondre très vite et ça remonte très vite. Et donc, de ce point de vue-là, il allait sauver la mise. C'est ce qu'il espère toujours. Il ne reste plus grand-chose comme indicateur à paraître. Un autre indicateur important, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, sauf quand on suit, c'est qu'on regarde sous le capot, en fait, c'est l'indice ISM. L'indice ISM, on entend ça vaguement quand on écoute la bourse et on fait d'une oreille distraite. En fait, c'est extrêmement important. Ça permet de savoir si le secteur manufacturier est en récession ou non. Alors là, comme ça, c'est pas très excitant. Mais le secteur manufacturier, ça veut dire les ouvriers dans les usines de la Rust Belt, de l'Ohio, de la Pennsylvanie, etc. Si leur secteur est en récession, ce qui était le cas malgré la croissance, d'où cette croissance en trompe-l'œil. Certains secteurs vont très bien, ceux qui payent peu, et certains secteurs qui sont vitaux pour la symbolique trumpienne, le secteur manufacturier, était en récession dans les années 2018-2019.
Sauf que malgré cette situation, cette dynamique mauvaise pour l'industrie américaine, eh bien, on a toujours l'impression, globalement, en tout cas chez les Américains, que c'est Donald Trump qui est le mieux placé pour relancer l'économie. Françoise Coste, sur ce paradoxe, voire même sur cette dose d'irrationalité, pour reprendre votre formule de tout à l'heure. Françoise Coste.
Ah mais alors ça c'est capital. La grande promesse de Trump en 2016, bon, c'était le mur avec le Mexique qu'il n'a pas fait construire. Et la seconde, c'était de faire revenir l'emploi industriel, justement. Lutter contre la désindustrialisation et les délocalisations des usines américaines, en particulier dans cette Rust Belt du Midwest, à Ohio, dans le Michigan, dans le Wisconsin. Et si on regarde, donc maintenant on a 4 ans de recul, si on regarde les statistiques, les délocalisations ont continué pendant le premier mandat de Trump. Il y a aujourd'hui, en particulier dans le Midwest, dans le Wisconsin, par exemple, dont on parlait, moins d'emplois industriels, 12 000 de moins, je crois, dans le Wisconsin, aujourd'hui qu'en 2016. Donc sur cette promesse-là, Trump, si on regarde les chiffres, il a échoué, malgré les bons chiffres officiels, effectivement, et globaux, jusqu'au début de la pandémie. Donc, objectivement, les démocrates pourraient faire campagne sur ça, sauf qu'on en revient toujours à cette idée. Les ouvriers peu qualifiés ou même qualifiés de du Midwest blanc, ces gens-là sont acquis à Trump et ils le suivront leur trip et non pas les statistiques et les faits.
Alors là, peut-être qu'il faut regarder du côté de la stratégie des démocrates qui peut-être ne s'attaque pas au bon thème dans cette campagne. Je propose d'abord, avant de réévoquer ce thème, Laurie Kenton, d'écouter Barack Obama, l'ancien président, qui jusqu'ici avait fait preuve d'une certaine retenue quand il posait son regard sur la politique de son successeur. Il a un peu rompu justement avec tout cela et il s'est montré beaucoup plus critique. C'était le 19 août dernier, écoutez.
Je me suis trouvé dans le bureau ovale avec ces deux hommes, aujourd'hui candidats à la présidence. Jamais je n'ai cru que mon successeur allait avoir les mêmes vues que moi ou bien aller poursuivre ma politique. Mais j'ai espéré que pour le bien de ce pays, Donald Trump montrerait de l'intérêt et prendrait son rôle au sérieux. Que peut-être il comprendrait l'importance de cette fonction et réaliserait qu'il faut respecter cette démocratie dont il avait désormais la responsabilité. Mais il n'a jamais fait cela. Depuis bientôt 4 ans, il ne s'est jamais mis au travail. Il n'a pas cherché à trouver de terrain d'entente avec ses adversaires politiques. Il n'a démontré aucun intérêt pour le pouvoir incroyable que cette fonction comporte, si ce n'est pour le servir lui ou ses amis. Il a traité la présidence comme une émission de télé-réalité de plus qu'il a utilisée pour attirer l'attention sur lui. Donald Trump n'a pas embrassé la fonction car il en est incapable.
Voilà, une critique extrêmement frontale de Barack Obama. C'était lors de la convention démocrate le 19 août dernier. Laurie Kenton, peut-être une réaction. Il est vrai que traditionnellement, les anciens présidents ne critiquent pas trop ouvertement leurs successeurs. Là, on est dans une critique extrêmement dure de Barack Obama. La question étant de savoir si c'est efficace politiquement.
Oui, parce que les gens qui sont de toute façon décidés à voter Trump vont se dire que oui, d'accord, mais est-ce que lui, il a fait quelque chose pour nous ? Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a deux moments, en fait. Ce qu'on regarde souvent, c'est l'érosion du vote démocrate entre 2012 et 2016 et les voix qu'Hillary Clinton a perdues. Quand on regarde, je donne un exemple parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est Détroit, le comté de Wayne. En fait, Hillary Clinton a perdu 70 000 voix par rapport au chiffre de 2012. Mais Obama avait perdu 76 000 voix entre sa première élection et sa deuxième élection. Donc ça fait 140 000 voix entre les deux et Obama a perdu plus que Clinton. C'est pas pour défendre Hillary Clinton, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose qu'on a moins vu ou qu'on a tendance à perdre de vue, c'est l'érosion du vote démocrate entre Obama 1 et Obama 2, si l'on veut. Il y a beaucoup des électeurs de Trump, à peu près 10%, qui ont voté Obama en 2012. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y en a encore plus qui ont voté Obama en 2008, qui n'ont pas voté, ou pas, qui ne peuvent pas forcément voter Romney d'ailleurs, c'est pas trop leur tasse de thé, en 2012, et qui ont voté Trump en 2016. Donc cette érosion, elle est sur la durée. Et Obama, pour eux, est vu comme celui qui n'a pas tenu ses promesses pour eux. Parce que les démocrates font identity politics, ils s'adressent aux urbains des côtes, ils ne s'adressent pas à eux. Mmh. Eux, ils les traitent de racistes parce qu'ils sont blancs, donc ils sont racistes. Et donc tout ça a un coût politique qui est considérable, et ils voient dans Biden quelqu'un qui va faire en gros la même politique qu'Obama, qui est aux mains de l'intelligentsia du parti, et donc dont les priorités vont être essentiellement identitaires, culturelles, et pas du tout adressées à eux. Pas du tout. Et donc eux vont se sentent comme un peu les cocus du Parti démocrate.
Françoise Coste, c'est ça un peu le défi du moment, c'est de s'adresser au fond au camp d'en face pour contrer Donald Trump et sa rhétorique de la désunion, de la guerre culturelle. Il faut avoir en face un candidat démocrate qui porte vraiment l'union de la nation avec ce combat pour l'âme de l'Amérique, pour reprendre la formule de Biden, the soul of the nation. Mais pour ce faire, il faut parler justement à l'ensemble de la nation. Et donc, il faut aussi parler au camp d'en face. Est-ce que vous avez l'impression que Biden aujourd'hui parle véritablement au camp républicain et va chercher éventuellement des déçus du trumpisme qui pourraient finalement voter pour lui? Vous avez l'impression qu'il y arrive? Qu'il Alors, le fait déjà, est-ce qu'il essaye tout du moins déjà?
C'était un peu la mission que lui a confiée l'électorat démocrate des primaires. Parce que, on peut se rappeler, c'était il y a 6 mois, on a commencé les primaires démocrates avec une vingtaine de candidats. Et sur le papier, c'est clair que Biden, c'était pas le plus excitant. Hein. On le connaît depuis longtemps. C'est pas du tout la. Il a presque 80 ans, donc c'est pas non plus l'incarnation d'une page qui se tourne, de l'Amérique qui regarde vers le 21e siècle. Mais si on regarde qui l'a choisi, c'est très intéressant dans les primaires démocrates. C'est clairement l'électorat noir. Dans les États du Sud, comme la Caroline du Sud, en particulier les femmes noires, qui sont à la base du parti, qui lui ont donné la marge de victoire sur Bernie Sanders en particulier. Pourquoi l'électorat, la base noire du parti, a choisi Biden plutôt que Sanders, ou quelqu'un de plus jeune? C'est clairement parce qu'il y a eu un calcul très pragmatique, que Biden, c'était peut-être pas le plus excitant, c'était peut-être pas un jeune dynamique, charismatique comme Obama en 2008, mais que c'était le plus rassurant. Mmh. Et que comme il fallait, comme vous l'avez bien expliqué, aller chercher des voix au centre et peut-être à droite, que la meilleure personne pour faire ça, c'était ben, finalement un homme plutôt qu'une femme, un blanc plutôt qu'un noir, un vieux plutôt qu'un jeune. C'est-à-dire quelqu'un qui est le moins menaçant possible, beaucoup plus rassurant que Barack Obama, quand on y pense. Et qui vient d'une famille de la classe ouvrière, qui en parle tout le temps, et qui, c'est le calcul, c'est l'espoir, sait parler justement à ces petits blancs. Maintenant, est-ce qu'il arrive à le faire? Ben, il ne peut pas physiquement le faire à cause de la pandémie, donc c'est déjà un grand obstacle. Et est-ce qu'il arrive à le faire? Maintenant, c'est au parti d'arriver à élaborer une stratégie, en particulier en ligne ou à la télé, pour arriver à compenser cette absence physique dans la campagne.
Alors, on va parler justement dans un instant de la stratégie numérique, mais d'abord, il y a un point très intéressant, Laurie Kenton. Vous avez dit, Françoise Coste, que les femmes noires avaient globalement choisi Biden dans la primaire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une erreur politique avec le choix de sa colistière, Kamala Harris, ancienne procureure générale de Californie, sénatrice depuis 2017. C'est une femme noire, d'origine jamaïcaine par son père, dont la mère a émigré d'Inde. Alors, on dit que c'est un très bon choix pour évidemment séduire le camp progressiste et multiculturel. En revanche, pour aller chercher dans le camp d'en face, je remets pas du tout en cause son choix. Mais on se dit que politiquement, peut-être aurait-il été intéressant de choisir une autre personnalité pour aller chercher dans le camp d'en face.
Non, en fait, c'est le moins mauvais choix. Il y a tous les choix des colistières pressenties avaient du bon et du moins bon, et on a bien vu en fait comment on peut mesurer que Kamala Harris était finalement un bon choix, c'est qu'elle est finalement globalement très peu attaquée par Trump, parce que Trump ne sait pas par quelle boule à prendre. Attaquer une femme, ça lui pose pas trop de problème, il l'a fait avec une vigueur toute trumpienne. Donc ça, c'est pas trop, il a pas vraiment de tabou là-dessus. Mais sur le côté c'est une gauchiste, il peut difficilement, à cause justement de son passé de procureur. En même temps, il peut pas dire regardez mes amis noirs, elle a été très méchante avec vous, votez pour moi parce que je suis quand même plus sympa avec les noirs. Voilà, bon, il y a plus grand monde qui est dupe là-dessus. Donc il sait pas vraiment par quelle boule à prendre. Elle incarne beaucoup plus un profil complémentaire. guerre par certains égards, et en même temps, comme elle est également assez modérée, c'est pas Elizabeth Warren, donc de ce point de vue-là, elle est rassurante, ouais, tout en étant plus forward-looking, c'est-à-dire plus 21e siècle.
On est avec vous, Laurie Kenton, et vous, Françoise Coste, dans cette série consacrée aux États-Unis cette semaine. Aujourd'hui, on parle de cette dernière campagne avant le chaos. On va s'intéresser à la question des stratégies numériques, justement.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. Donald Trump is a white supremacist. Full stop. If you vote for him again, you're a white supremacist. Full stop. Call it like it is and then let the rim spin today. Full stop. Put one up for Big Floyd. The march is not going to stop.
Voilà, ce qu'on entend, c'est l'extrait d'une chanson qui est apparue cet été sur TikTok, donc sur les réseaux sociaux. On va s'intéresser justement aux stratégies numériques qui sont évidemment au cœur de la campagne. Net avantage des républicains sur le numérique dû à, en grande part en tout cas, à l'utilisation par Trump des réseaux sociaux. Et donc il faut trouver des alternatives, des moyens de justement contrer cette stratégie numérique très forte du côté de Donald Trump. Pour ce faire, on va accueillir Ronan Le Goff. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur associé de la NetSquad, une agence de communication, et vous êtes un observateur averti de la campagne américaine dont vous scrutez les usages numériques. Et d'ailleurs, vous chroniquez régulièrement sur les aspects digitaux de cette campagne sur le site Stratégie. Lors de la précédente élection, Ronan Le Goff, on avait énormément insisté sur le fait que bien le réseau social Facebook avait constitué un avantage très important pour le courant républicain, et que malgré les critiques formulées de Trump à l'égard de l'entreprise de Mark Zuckerberg, eh bien Facebook avait quand même participé à sa victoire. Est-ce que pour ce scrutin, on va pouvoir faire le même bilan ? Est-ce que Facebook sera l'allié de Trump, même si certains travers ont été, qui avaient été dénoncés à l'époque, ont été un peu corrigés, qu'il y a des petits efforts qui continuent d'être déployés pour éviter les interférences dans la campagne ? Ou est-ce que Facebook ne sera pas l'allié de Trump et au fond ne sera pas un agent aussi important dans cette campagne ?
Alors Facebook va jouer un rôle considérable. Et d'ailleurs, les deux candidats consacrent un budget énorme pour de l'achat publicitaire. En revanche, les choses vont être un petit peu différentes par rapport à 2016. En 2016, Donald Trump a totalement réécrit les règles avec sa campagne victorieuse. Son équipe avait détourné les usages des réseaux sociaux, Facebook notamment. Et on a découvert alors la face cachée avec des campagnes de désinformation, les interventions de trolls russes, le scandale Cambridge Analytica. Donc les choses sont très différentes aujourd'hui, déjà parce que la campagne numérique est inédite. On est dans une campagne qui est essentiellement virtuelle, à tel point que la presse d'ailleurs la surnomme la campagne invisible. Donc les candidats, et Biden notamment, ne fait pas de meeting physique, seul Trump en fait quelques-uns. Donc ouais, c'est quasiment une campagne qui va se faire que sur le web, que sur les réseaux sociaux, ouais, et par SMS.
Et alors justement, il y a un point sur lequel les démocrates visiblement se démarquent pas mal. C'est une application qui s'appelle Vote Joe, Joe pour Joe Biden, qui est sortie en juillet dernier. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots et nous dire en quoi est-ce qu'elle est particulièrement innovante, si elle l'est?
Elle l'est. Et les applications vont jouer un rôle très important parce que les plateformes sont régulées aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très difficile. Enfin, Twitter a banni tout simplement la publicité politique. Google limite le micro-targeting et Facebook s'apprête à le faire également. Donc, effectivement, les deux candidats...
Micro-targeting, c'est le micro-ciblage, hein, pardon.
C'est du micro-ciblage.
Voilà, il s'agit d'aller récupérer donc les données aussi des individus pour en faire. Hein. C'est aussi ça.
Exactement. Voilà. C'est ce qui a vraiment été fait en 2016. Et qui avait très très bien fonctionné pour le camp Trump. Alors, cette année, je pense qu'en 2020, les applications vont jouer un rôle non négligeable, parce qu'elles permettent non seulement aux équipes des candidats de parler directement aux électeurs potentiels, mais elles permettent surtout de collecter des quantités massives de données utilisateurs, sans avoir aujourd'hui besoin de s'appuyer sur ces principales plateformes dont on parlait, Facebook, Twitter, Google, et de s'exposer donc à la surveillance et à la modération de ces messages. Donc l'application de Joe Biden, qui s'appelle Team Joe, est disponible effectivement depuis début juillet, donc c'est très court. Hein. Elle ressemble, elle présente des similitudes par rapport à l'application de Trump, mais sa proposition est très différente. Donc l'application de Trump, elle a de nombreuses utilisations, elle diffuse des notifications personnalisées, elle diffuse en direct des rassemblements, elle passe par des sessions de formation pour des activistes numériques. Mais ce qui les distingue, c'est que l'application de Joe Biden est en grande partie conçue pour les militants de terrain, avec un seul objectif, c'est le relationnel, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent, eux, le data-driven relational organizing. Mm-hmm. Je vous explique de quoi il s'agit, c'est que l'application permet de faire matcher les contacts du téléphone avec des fichiers d'électeurs. Et donc,
de faire correspondre. J'ai fait la traduction parce qu'après, on reçoit des mails qui nous disent « mais il faut parler en français, c'est pour ça, je me permets, Ronan Le Goff, pardon. »
Bien sûr, je vous en prie. Donc, en fait, l'application permet d'indiquer qui a voté, à quelles élections, et avec quelle partie la personne est enregistrée.
D'accord.
Donc ça permet de cibler très précisément des personnes qui sont potentiellement indécises. Mmh. Et vous le savez, ce qui va jouer en fait dans le cadre de cette campagne, ce sont les indécis,
non pas ceux
qui fluctuent d'un parti à l'autre, mais ceux qui hésitent entre aller voter ou ne pas aller voter. Mmh. Donc l'app, l'application, elle permet d'envoyer des messages très personnalisés à ces personnes, et on est dans une approche très directe, donc c'est efficace. Et cette technique autour du relationnel, c'est en train de devenir la stratégie d'approche privilégiée pour les campagnes politiques américaines. Mmh. Donc voilà, ça c'est vraiment l'approche de Joe Biden. L'approche de Trump est différente. Ils ont une application qui a été lancée en avril dernier. D'après le dernier décompte, elle aurait été téléchargée environ 800 000 fois. Et c'est un véritable aspirateur à data, parce que lors de l'inscription, les utilisateurs ils doivent fournir leur numéro de téléphone, le nom, leur adresse mail, leur code postal. Mais ils autorisent aussi l'application à avoir accès aux données de localisation et donnent le contrôle de la fonction Bluetooth du téléphone. Donc ça permet vraiment de toucher de manière extrêmement fine les électeurs et de faire basculer justement et de les convaincre de voter.
Alors Ronan Le Goff, quand on regarde un peu les équipes derrière Biden, on trouve notamment une personne qui s'appelle Tara McGowan, qui est une spécialiste de stratégie numérique, qui a créé plusieurs agences de publicité numérique, qui avait participé d'ailleurs à la campagne d'Hillary Clinton et même déjà à la réélection de Donald Trump. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour elle, alors il faut évidemment miser à fond sur le numérique, mais pas seulement. Elle a fait lever 25 millions de dollars, cette femme, pour créer une entreprise de presse, pour créer des publications numériques ultra locales, qui sont animés par des journalistes professionnels, et en particulier dans les fameux swing states dont on a parlé, ceux qui avaient tant manqué à Hillary Clinton, le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin. Et il s'agit pour elle de lutter contre les fake news au plus près du terrain. Que vous inspire, Ronan Le Goff, cette offensive numérique ultra localisée et qui n'est pas globale, comme on le voit d'habitude dans les campagnes américaines?
Alors c'est un exemple très intéressant, effectivement, dont on a beaucoup parlé. Déjà, il faut savoir que les démocrates ont été traumatisés par la campagne de 2016 et ils ont eu du mal à aborder la bataille du web en 2020. Donc ce sujet a créé de véritables remous au sein des établissements démocrates et se sont retrouvés face à une question, face à un dilemme. Faut-il, pour l'emporter en 2020, appliquer des méthodes qui ont fait le succès de Trump en 2016, en d'autres termes? Est-ce qu'il fallait refuser la guerre technologique au motif qu'elle n'est pas éthique? Alors, cette jeune journaliste, Tara McGowan, c'est une ancienne journaliste de CBS qui a 33 ans, c'est la figure centrale d'une mouvance au sein du Parti démocrate. Elle a fondé le Super PAC, c'est un comité d'action politique qui s'appelle PACronyme, et qui est doté d'un fonds, effectivement, de plusieurs dizaines de millions de dollars, principalement utilisé pour inonder les réseaux sociaux de publicité anti-Trump. Donc elle est persuadée que les démocrates peuvent utiliser de matière éthique ces outils de micro-ciblage, de micro-targeting qui sont mis à disposition par Facebook. Donc elle a vraiment milité en interne pour retourner contre le président cette arme digitale qui a fait son succès. Et donc ils dépensent des millions de dollars. Ils ont investi par exemple 10 millions de dollars dans des publicités digitales pour contrer des attaques racistes Kamala Harris, candidate à la vice-présidente. Ils ont fait des tests, ça vient pas nulle part. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont en amont réalisé une batterie de tests publicitaires sur ces 5 swing states, vraiment sur lesquels les équipes travaillent énormément. Et ils prétendent être parvenus à faire baisser le soutien du président Trump de 3,5%, donc parmi un électorat cible. Donc c'est un véritable outil, donc il mène la guerre technologique et il consacre une bonne partie des budgets justement à cela. Alors il y a d'autres choses qui ont été faites. Il y a un groupe de presse aussi, donc très local, qu'on appelle Korean Newsroom, et c'est une structure qui ressemble énormément à Breitbart, qui avait contribué très largement à la victoire de Trump en 2016. Donc ce sont des articles qui sont publiés sur des sites de presse locales, créés de toutes pièces par les équipes numériques. Et les articles suivent l'agenda politique progressiste pour toucher leurs audiences via, encore une fois, des publicités qui sont achetées sur Facebook.
Mais avec derrière des journalistes professionnels.
Avec des journalistes professionnels, donc c'est vraiment un site d'information animé par des journalistes de professionnels. Et on sait qu'en 2016, ça a eu une importance très importante. Vous vous souvenez de Bannon, justement, qui dirigeait Breitbart, donc ça avait joué un rôle considérable. Voilà.
Allez.
Donc aujourd'hui, il y a des techniques, on se déporte sur de nouvelles stratégies,
alors,
en s'inspirant de ce qui a été fait par Trump.
Peut-être une réaction de nos invités en plateau. On va commencer par vous, Françoise Coste, et puis ensuite Laurie Kenton, on arrive presque au terme de l'émission. Je vous en prie, Françoise Coste, d'abord, première réaction.
Ma première réaction, c'est que c'est un peu une grande déception historique d'en être arrivé là. Parce que quand le premier qui a vraiment su utiliser l'internet et les réseaux sociaux pour sa campagne, c'était Barack Obama, en 2008. Oui. Ouais. Et on se rappelle que c'était vraiment une campagne pionnière, hein, en particulier la manière dont Obama en 2008 avait utilisé son site pour lever des fonds avec des petites contributions plutôt que de demander des grands chèques aux grands industriels, par exemple, de demander à ses fans de base d'envoyer $5, $10, $25, donc des petites contributions via le site. Et Obama avait, donc sa campagne, avait brillamment utilisé l'internet. Et tout le monde en 2008 était persuadé que l'administration Obama allait intégrer dans sa gestion du gouvernement les listes de mails récoltées pendant la campagne et puis ce savoir-faire. Et là, l'administration Obama, elle a complètement laissé tomber. Ça s'appelait l'OFA, Organizing for America, et ça a été vraiment un espoir grandement déçu, d'Obama en particulier, des démocrates qui ont suivi, qui ont négligé ça et qui ont laissé cet immense vide sur Internet dans lequel s'est engouffré Trump. Et maintenant, c'est intéressant, toutes ces initiatives démocrates, mais les démocrates sont quand même en retard et c'est vraiment... ils sont sur la défensive, ils essayent de rattraper, je sais pas si ce sera suffisant, tellement Trump a créé une nouvelle manière de faire de la politique via Twitter.
Laurie Kenton, nous aussi on est un peu en retard, alors je demanderai une réponse relativement courte pour conclure l'émission.
Cette avance des démocrates est indéniable, mais les républicains avaient déjà une avance dans les années 80 sur l'établissement de fichiers cibles, mais qui étaient vraiment des fichiers papier d'adresse des lecteurs, et donc il y a des avances qui se perdent et qui se récupèrent en fonction de l'évolution des médias. Les démocrates reprendront peut-être l'avantage au profit d'un autre glissement technologique.
Just like cold steel shot hot out of a gun, just like an orange peel left all day in the sun, I've got no feel. That's done left me scarred. What don't kill me has done made me hard.
Un grand merci à Ronan Le Goff qui était avec nous par téléphone. Et un grand merci à vous, Laurie Kenton, de nous avoir accompagnés. Je rappellerai que vous avez dirigé Le Rêve américain à l'épreuve de Donald Trump qui va paraître aux éditions Vendémiaire. Ce sera pas tout de suite, faut attendre le 8 octobre. Je me dis
pas, c'est ça?
Voilà. Mais en attendant, on peut déjà se procurer la fin du Rêve américain. C'était chez Autrement. Un grand merci.
Chez Odile Jacob.
Un grand merci également à vous, Françoise Coste, de nous avoir éclairé. Je rappellerai que vous êtes vous l'autrice d'un ouvrage qui était paru chez Perrin en 2015, une biographie de Ronald Reagan. Un grand merci à vous. On poursuivra évidemment nos réflexions autour de cette campagne américaine demain. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier qui va nous permettre de prolonger un peu ce moment états-unien.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous ouvrez vos chroniques de la semaine avec un complot très américain qui a pour sigle un label, voilà, QAnon, Brice.
Eh bien, c'était le 4 décembre 2016. Le mois précédent, Donald Trump venait d'être élu président des États-Unis et Edgar Madison Welch pensa que l'heure avait sonné de nettoyer les écuries d'Ogias. Il savait, lui, ce que les médias officiels ou dirigeants complices dissimulent au pays. Hillary Clinton allait enfin payer pour les ignominies auxquelles elle et ses proches se livrent depuis des années en toute impunité. Au matin, il avait quitté son domicile de Salisbury en Caroline du Nord en s'équipant de 2 pistolets et d'un fusil à pompe. Il a roulé pendant plus de 500 km jusqu'à Washington. Il a garé sa Toyota dans le parking d'une pizzeria appelée Comet Ping Pong. Il pénètre dans la pizzeria comme un cow-boy, étui de revolver à la ceinture, fusil sur l'épaule. Hillary Clinton et son staff de campagne avaient mangé bien des fois au Comet Ping Pong. Toute la presse les y avait photographiés, mais ce n'était pas Hillary Clinton que recherchait Edgar Madison Welch, c'était les enfants. Alors que les clients du restaurant fuyaient dans la rue par familles entières, lui cherchait l'entrée de la cave de la pizzeria, parce que c'était là qu'étaient séquestrés les enfants, il l'avait lu sur Internet. Les emails confidentiels échangés entre la candidate démocrate et John Podesta, ancien chef de cabinet de Bill Clinton à la Maison-Blanche, devenu responsable de la campagne électorale d'Hillary, avaient été divulgués sur WikiLeaks. Or, les esprits avertis, comme Welsh, y avaient relevé l'apparition, figurez-vous décidément trop fréquente, des mots « pizza » et « pasta ». Pizza et pasta, hein. Mot de code. Seuls les initiés comme Edgar Madison Welsh connaissaient leur sens caché. Pizza, c'était pour les petites filles et pasta pour les petits garçons. John Podesta était à la tête d'un immense réseau de pédophiles aux connexions considérables et Hillary Clinton couvrait ses horreurs de son autorité. Comment l'Amérique avait-elle pu tolérer durant des années que ses enfants soient kidnappés, violés, torturés, assassinés dans des sous-sols de pizzeria? Certes, à présent que le Donald allait enfin entrer à la Maison-Blanche, il y mettrait bon ordre, ferait arrêter ces centaines de politiciens et de journalistes pourris, il l'avait promis. Mais il fallait attendre pour ça son investiture, en janvier. Et d'ici là, le devoir des gens honnêtes et déterminés était de libérer les enfants séquestrés. Edgar Madison Welsh, après avoir parcouru la pizzeria et ses cuisines, fusil à la main, découvrit au fond de celle-ci une porte fermée à clé. Forcément, la porte de la cave. Sans hésiter, sûr de sa mission, il tira à plusieurs reprises dans la serrure et pénétra dans la pièce. Ce qu'il découvrit fut une vulgaire remise. Il n'y avait pas d'escalier, pas de cave, pas d'enfant, juste des chaises cassées et des sacs de farine. Welsh déposa alors ses armes sur le sol et sortit se rendre au policier qui l'attendait sur le trottoir. Il a été condamné à 4 ans de prison.
Mais alors Brice, quel rapport entre cette histoire absolument aberrante et QAnon que vous nous promettiez ?
Eh bien parce que c'est ainsi qu'a commencé l'histoire de ce réseau QAnon, l'une des plus folles croyances irrationnelles du moment. Ses adeptes, qui sont probablement plusieurs millions, croient dur comme fer à l'histoire du réseau pédophile des pizzerias. Mais pour eux, le complot contre l'Amérique va bien au-delà. Il pense que de manière souterraine, un combat titanesque est en cours. Il oppose leur héros, Donald Trump, non seulement à l'État profond qui a gangréné les États-Unis, mais au véritable maître du monde qui, en coulisses, contrôle les gouvernements, manipule l'opinion, bref, tire les ficelles. Ils savent, eux, que si les élites politiques, médiatiques, culturelles sont hostiles à Trump, c'est parce que celui-ci a entrepris en toute discrétion, mais avec efficacité, de neutraliser et de réprimer cette cabale des élites, le complot du nouvel ordre mondial désigné par les trois lettres NWO, New World Order. Et grâce à QAnon, ces fêlés se croient investis d'un savoir ésotérique et d'une mission. Tout est parti d'un message étrange signé Q, donc posté le 28 octobre 2017 sur le site d'échange 4chan. Son auteur, anonyme, annonçait l'arrestation imminente de Hillary Clinton, contre laquelle allait être lancé un mandat d'arrêt international. S'attendre à des émeutes de masse et à d'autres fuites hors des USA, écrivait Q. Hillary Clinton n'a pas été inculpée par aucun juge que l'on sache, mais ce n'est pas grave parce que le démenti des faits n'a aucune incidence sur les paranoïaques. Leur délire trouve toujours de nouveaux aliments et lorsque les événements dont ils annoncent l'imminence ne se produisent pas, ils l'interprètent soit comme une preuve que les forces diaboliques sont parvenues à les bloquer, soit comme une ruse très adroite de Trump retardant le moment du coup de filet final. Samedi dernier, c'est tout récent, l'identité du développeur de QMapPub, le site qui était devenu le conservateur des archives de QAnon, a été révélée par une société de sécurité sur Internet, Logically. Il s'appelle donc Jason Gelinas et vit dans le New Jersey. Son site a reçu, tenez-vous bien, 10 millions de visites en juillet dernier. Cela mettra-t-il fin à la secte QAnon? Eh bien, certainement pas. La suite demain.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. On peut évidemment retrouver sur le site de France Culture. Et d'ailleurs, tiens, j'indique pour les auditeurs qu'ils peuvent aussi retrouver depuis vendredi en kiosque la revue papier de France Culture avec ce dossier spécial l'Amérique et ses complexes. Hein, c'est évidemment lié à notre sujet de cette semaine. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.